Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité cette semaine est Nicolas Richoux, le général Nicolas Richoux, que les téléspectateurs de LCI connaissent bien, parce que vous êtes consultant LCI sur les questions de défense, et on va évidemment parler de la guerre en Ukraine. Nous sommes bientôt à 10 mois de cette guerre qui a démarré le 24 février. En tant que général, quelles sont les premières leçons militaires que vous tirez de ce conflit? Tout d'abord, peut-être pour l'armée russe.
Eh bien, pour l'armée russe, on peut tirer comme conclusion qu'elle a violé absolument tous les fondamentaux militaires depuis le début de la guerre, et c'est vraisemblablement une des explications de ses échecs initiaux. On a vu au début de la guerre qu'elle a, la deuxième armée du monde, a attaqué à peu près partout, convaincue qu'elle était vraisemblablement, qu'elle serait accueillie en libérateur, un peu comme ça s'est passé en 2014, et donc elle a violé le premier principe qui est la concentration des efforts. Au lieu d'essayer de prendre Kiev, qui est le centre du pouvoir, elle attaquait du nord au sud en pensant qu'elle serait que personne ne s'opposerait à elle. Et donc la première erreur. Et ensuite, eh bien, elle a gaspillé ses forces sans objectif stratégique. C'est une campagne sans centre de gravité, en fait. C'est ça le vrai problème. Quand on définit une campagne, il faut définir un centre de gravité, c'est-à-dire quel effet on veut obtenir. Où est-ce qu'on veut aller? Et là, visiblement, on pensait on a le sentiment qu'elle a voulu aller partout, et donc elle n'est allée nulle part. La deuxième conclusion que je tire également, c'est qu'on pensait que c'était une armée de haute technologie, un peu comme nos armées occidentales, petite, hein, 160, 180 000 hommes, et on s'aperçoit à l'usage que c'est une armée de type soviétique, avec, moi ce qui m'a fasciné lorsque j'ai vu la campagne à partir du 24 février, c'est que les équipements dont l'armée russe est équipée aujourd'hui sont à peu près semblables à ceux que j'ai connus quand j'étais lieutenant et qu'on faisait du renseignement militaire, vous voyez, donc voilà.
Donc c'est vraiment les mêmes équipements, il n'y a pas eu de modernisation.
Il y a un petit peu de modernisation, ils ont sûrement été revalorisés un peu, mais les T-72, les BMP, les BTR,
oui, tout ça existait
du
temps de l'URSS.
Ça existait quand j'étais lieutenant dans les années 80. Donc si vous voulez, la rupture, il n'y a pas de rupture technologique, et puis après, défaut de coordination, défaut de commandement, défaut de transmission, défaut de logistique, absolument tout ce qu'il ne faut pas faire au combat a été fait à peu près par l'armée russe au début du conflit, et de facto, ils ne s'en sont jamais remis.
Comment expliquer cette ossification, le fait de ne pas se remettre en question, de ne pas évoluer, de garder des schémas qui pourtant d'ailleurs avaient déjà échoué du temps de l'Union soviétique?
Ben, ils n'avaient pas échoué parce que c'est le grand vainqueur de la grande guerre patriotique, oui. Et ils sont restés sur ce schéma-là, à la différence de l'armée ukrainienne qui depuis 2014 est conseillée, équipée par les Occidentaux, dont les Britanniques notamment, et donc qui a une pensée beaucoup plus moderne. Et donc ils sont restés sur un schéma tout à fait soviétique, qui est d'ailleurs celui inhérent aux dictatures, c'est-à-dire la pensée vient du chef et on obéit à la lettre, surtout pas à l'esprit, parce que obéir à l'esprit c'est dangereux, on peut se faire relever de son commandement, donc même quand on doit aller dans le mur, on y va parce que le chef l'a dit. Et donc là on voit quand même qu'il y a effectivement une comme vous le dites, une ossification de la pensée, et la pensée moderne est absolument pas du côté russe, à la différence des Ukrainiens qui ont inventé, j'allais dire, un certain nombre de combats modernes qui ont su utiliser les technologies, qui ont le sens de l'initiative, qui ont le sens du combat décentralisé, le sens de saisir les opportunités. Et ça, c'est véritablement une des grandes innovations du conflit que les Occidentaux, les
États-Unis. On y reviendra, mais pour rester sur l'armée russe, vous, en tant que général de l'armée française, que pensez-vous des exactions multiples dont sont accusés, et de façon très documentée, les soldats russes? Ils ne sont pas tenus, on sait qu'il y a une tradition de violence, que les conscrits sont souvent maltraités, Gorbatchev lui-même déjà s'en plaignait. Comment analysez-vous cela?
Eh bien écoutez, c'est une société violente depuis la nuit des temps, et finalement on n'y voit pas de comportement très très différent de l'armée soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. On sait que lorsqu'ils sont arrivés en Allemagne, il y a eu plusieurs millions de personnes violées, etc. Alors bien entendu, la justesse du combat était de leur côté, mais finalement, je veux dire, la violence de la société russe, la violence c'est-à-dire la culture de la contrainte au sein de l'appareil militaire russe, font que ils ne sont pas éduqués, je dirais, dans le sens des droits de l'homme. Donc ça porte ces exactions qui sont évidemment soit des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, et puis quand il y a déportation de personnes, alors c'est du génocide, déportation déportation, déportation d'enfants, on en parlait encore sur les antennes hier, peut-être 200 000 plus d'enfants qui ont été déportés vers la Russie au fur et à mesure où les troupes russes reculaient. Ça s'appelle du génocide, parce qu'on efface la mémoire d'enfants, on essaye de faire en sorte qu'ils perdent toute la mémoire du fait qu'ils ont été ukrainiens, et de manière à ce qu'ils sentent des petits russes.
Et est-ce que ce sont des soldats qui sont livrés eux-mêmes, pas encadrés, ou est-ce que c'est une structure permet, voire organise violence contre les personnes.
La violence n'est pas forcément organisée, elle est inhérente au système russe. Alors, les troupes russes, on voit bien que le système est violent. Quand on a été violenté, on a plus de chances de devenir violent quand on a des parents qui vous ont battu que quand on a eu des parents qui ont été aimants. Et ensuite, ils ont un système de commandement qui est antédiluvien. Il y a très peu ou pas de corps des sous-officiers. On sait que chez nous, les sous-officiers, c'est très important. On a à peu près un sous-officier tous les 10 hommes. Et en dessous, on a les caporaux, les caporaux-chefs, ça veut dire...
Ça, c'est pour tenir les troupes.
Cadre, oui. Bien sûr, c'est l'armature. C'est ce qui est essentiel. C'est ce qui permet aux régiments, aux unités, de se tenir au combat et donc faire en sorte que les soldats n'ont pas d'exaction. Moi, ce qui me frappe à chaque fois que je vois des photos ou bien des vidéos, c'est qu'ils semblent absolument livrés à eux-mêmes. Tant d'ailleurs en fondamentaux du combat, quand ils foncent comme ça, on nous dit à Bakhmout, ils foncent à l'assaut absolument sans méthode, ils n'ont pas été formés, ils ne sont vraisemblablement très très mal encadrés. Et puis, observez, quand on pénètre dans leur gourbi, c'est toujours un taudis, c'est le bidonville absolu, ce qui prouve qu'il n'y a pas d'encadrement qui organise les bivouacs, comme on l'observe dans les armées occidentales, avec un coin pour la nourriture, un coin pour les munitions, un coin pour dormir, etc. Et on organise les tours pour balayer, pour faire en sorte... Là, on a le sentiment qu'on les pose quelque part et qu'ils sont absolument livrés eux-mêmes. Alors, quand on sort, l'est de la Russie, et qu'on n'a rien vu du monde, et qu'on est à peine encadré, et qu'on vous balance dans une guerre comme celle-là, forcément, ça donne ce que l'on voit, notamment dans les massacres de Boutcha.
Le général Gerasimov, chef d'état-major des armées, qui a quand même organisé, finalement, cette guerre, vient d'être promu chef des opérations dans le Donbass. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir les deux postes en même temps, et est-ce qu'on ne récompense pas quelqu'un qui a échoué ?
Bah écoutez, je pense qu'on récompense surtout quelqu'un qui soutient le régime. Gerasimov, Shoigu, c'est quand même les deux qui ont absolument planté, j'allais dire, excusez-moi de l'expression, l'armée russe depuis le début de la campagne. Shoigu, qui n'est pas un véritable militaire, Gerasimov, qui est chef d'état-major des armées, et vous mettez le doigt dessus. Comment peut-on être à la fois chef d'état-major des armées, parce que chef d'état-major des armées, ça veut dire qu'on s'occupe aussi de la flotte du Pacifique, et puis des îles et de l'Arctique, et puis du flanc sud. Et donc, on s'occupe également de la formation, de l'entraînement, de la doctrine, d'un certain nombre de choses pour que l'armée russe existe. Et ensuite, on lui demande d'être un patron de théâtre. C'est totalement antinomique, c'est impossible. Où sera-t-il ? À Moscou ? Où sera-t-il ? En Ukraine ? Bon, Poutine va le garder près de lui. Donc c'est un chef militaire qui n'est pas sur le terrain. Il va avoir une vision totalement décalée de la réalité. C'est voué à l'échec.
Ni le ministre de la Défense, ni Poutine, le chef d'état-major ne sont allés sur le front. C'est quand même très significatif.
C'est significatif et c'est une grande tradition russe. Surtout. Vous avez vu Staline aller sur le front pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Staline, il n'est jamais sorti de sa datcha ou du Kremlin. Le plus loin où il a été, c'est à Téhéran, me semble-t-il. Hein. Et encore, parce qu'il avait un train sécurisé et que Téhéran était en terre amie. Mais autrement, on ne l'a jamais vu ailleurs que dans sa datcha pendant toute la durée de la guerre. Le chef est au Kremlin, il est protégé au Kremlin, et puis on envoie les autres se faire tuer, bien entendu.
Donc, verticalité absolue, massification avec une arriération technologique, finalement, la Russie est la prolongation des points de vue militaires de l'Union soviétique.
La Russie, aujourd'hui, est la prolongation militaire de l'Union soviétique, sur le plan d'ailleurs, sur le plan politique. Et pire, vraisemblablement, parce qu'il y avait un politburo avant. Maintenant, il y a Vladimir Poutine qui est seul décideur. Donc ça, c'est moins rationnel, parce que le sort de la Russie...
Il n'y a plus d'action collective.
Il n'y a plus de décision collective. Et sur le plan militaire, il me semble évident qu'ils ne sont pas sortis de la pensée soviétique, avec cette idée que l'armée de la Grande Guerre patriotique était le summum de ce qu'on a pu faire. Il ne faut jamais oublier que l'armée de la Grande Guerre patriotique, c'est un soldat allemand tué pour 5 à 6 soldats soviétiques tués. C'est-à-dire sans économie des moyens, sans rien du tout, on faisait avancer les troupes vers le front. Et bien sûr, les Allemands ont cédé à la masse. Et c'est aussi ce qui pourrait arriver à l'armée ukrainienne si on n'y prend pas garde, parce qu'ils ont un réservoir humain qui est quand même considérable.
Alors, armée ukrainienne, venons-y, le ministre de la Défense ukrainien dit que l'Ukraine est de facto membre de l'OTAN. Est-ce que, militairement, ça a du sens de dire cela ?
Non, enfin, c'est un slogan. Bon, on a bien compris qu'ils veulent entrer dans l'OTAN, bien entendu. Ils sont candidats à l'UE, mais moi j'ai toujours dit qu'à partir du moment où on est candidat à l'UE, comment évite-t-on, à un moment donné, le débat sur l'OTAN ? Quand vous avez la majeure partie ces 24, je crois, à peu près, je peux me tromper, un pays près, des pays de l'UE qui sont membres de l'OTAN, 24, des 30, oui. C'est bien 24, vous n'échappez pas, tôt ou tard, avec l'article 42.7 de l'UE, qui est aussi un petit article 5 de l'OTAN, vous n'échappez pas, à un moment, au débat de si l'Ukraine appartient à l'Union européenne, de son appartenance à l'OTAN. Le jour où elle sera dans l'Union européenne, est-ce qu'on va la laisser se faire envahir toute seule ? C'est absolument impensable. Donc ce débat aura lieu. Ça, je pense que c'est absolument imparable tôt ou tard. Mais elle ne fait pas partie de l'OTAN aujourd'hui. Et moi, je suis de ceux qui disent qu'on n'est quand même pas co-belligérants. Co-belligérants, c'est quand on enverra nos troupes au front, que Paris sera bombardé, quand on commencera à avoir des pertes, etc. Voilà, on est dans l'état des États-Unis d'Amérique approvisionnant l'Angleterre en 1940-41.
Alors, comment vous jugez l'armée ukrainienne, du coup, par opposition à l'armée russe ?
Alors, l'armée ukrainienne, c'est une des révélations. Je riais l'autre jour parce qu'on la classifie encore dans un classement encore la 15e du monde. Et la Russie, dans un dernier classement également, reste la 2e.
Enfin, c'est juste numérique, c'est le nombre de soldats ou quoi ?
Ça ne veut rien dire du tout.
L'Irak de Saddam Hussein était bien la 4e armée du monde.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est peut-être en masse, c'est peut-être en nombre, mais certainement pas en valeur. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, elle a acquis une grande compétence opérationnelle. Et puis, cette armée, il ne faut pas l'oublier, c'est une armée, alors là, vraiment, à la pensée moderne. Donc, le combat décentralisé, capable, donc l'initiative des chefs qui sont capables d'avoir des exploitations tactiques de terrain, de micro-tactique sans doute avoir à reférer. L'utilisation, j'allais dire, de la numérisation, alors bien aidée par les Américains, bien entendu.
À la fois le Pentagone et Elon Musk.
Et Elon Musk, parce qu'une des révolutions et un des grands enseignements, c'est le pouvoir de la numérisation d'Internet qui permet, je voulais, de commander tous azimuts tout le temps et de ne pas avoir de coupure et de garder une couverture. Ça, c'est un vrai enseignement. Ensuite, une utilisation technique très habile des moyens mis à leur disposition, des drones bricolés, le missile Neptune qui permet d'aller taper le Mosva et de couler un croiseur, alors même qu'ils n'ont pas de marine. La surprise stratégique permanente, le pont de Kerch également. Ensuite, on arrive à taper d'abord à Belgorod, ensuite à Engels. On tape les cibles stratégiques alors qu'on les croit incapables d'aller là. L'utilisation permanente des drones sur l'espace de bataille qui renverse totalement la donne. Moi, je suis cavalier, donc blindé, et quand je vois comment on détruit un char, c'est 10 millions de dollars à peu près. Bon, 10 millions de dollars, vous achetez un drone sur TikTok, vous mettez une bombinette qui vous la larguez par gravité au-dessus de la cible, et avec quelques milliers d'euros, vous détruisez un char de 10 millions de dollars. Ça, c'est quand même quelque chose.
Et du coup, est-ce que ça vous fait réfléchir sur l'avenir de nos capacités militaires ?
Oui.
Est-ce qu'il faut changer ? Parce que on dit parfois qu'on a gardé les mêmes projections que pendant la guerre froide. Est-ce que, du coup, il y a des... Parce que pour l'instant, j'ai le sentiment, mais vous pouvez peut-être ne pas partager cela, qu'on se contente de dire on va augmenter les dépenses militaires. Est-ce qu'il y a une réflexion sur quelles sont les armes de la guerre moderne ?
Ah oui, il y a une réflexion. L'état-major tient cette réflexion, de toute manière. Et dans cette réflexion, il y a vraisemblablement la puissance des drones. Et puis, moi, il y a deux choses qui me fascinent. C'est quel rôle pour la cavalerie blindée demain, puisque je suis cavalier, donc ça, c'est un truc qui m'interpelle, parce que quand on voit la facilité avec laquelle on détruit un char aujourd'hui, donc il y a toujours le problème de la cuirasse et puis du canon.
Voilà. Quel est votre diagnostic là-dessus ?
Je pense que le char du futur devra être bâti dans un environnement protecteur. Et donc ça, c'est... Et comme le SCAF, c'est pareil. Le SCAF, quel est le...
L'avion du futur.
C'est ma deuxième réflexion. Quel avenir pour l'aviation de chasse à l'heure des drones qui survolent, qui vont taper très loin, etc. Aura-t-on besoin d'aviation embarquée demain ?
Ouais.
Moi, je n'en suis pas si sûr. Et de toute manière, le SCAF, qui sera un avion piloté, aura besoin d'un environnement environnement protecteur.
Vos camarades de l'armée de l'air sont peut-être pas tout à fait d'accord.
Mais je me pose la même question sur mon arme. Hein, remarquez bien, donc je suis honnête. Je n'ai pas la réponse, d'ailleurs, parce qu'à un moment, il faut peut-être aussi le pilote qui sera capable d'amener la décision au bon moment, au bon endroit, parce que, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera une bulle avec un environnement autour du système d'armes, mais il faudra une défense solaire, il faudra des drones accompagnateurs pour protéger ces vecteurs qui aujourd'hui ont fait preuve de leur vulnérabilité. Regardez l'armée russe, ils ont gardé une aviation, mais ils n'ont pas de supériorité aérienne.
Ils s'en servent jamais.
Mais ils ne s'en servent pas parce qu'ils n'ont pas de supériorité aérienne, parce qu'à partir du moment où on leur livre des patriotes, qu'on leur livre toute la panoplie solaire que l'on peut, court, moyenne, longue portée, aujourd'hui ils vont l'avoir avec la patriote, ils leur manquent les longues portées, l'aviation est inopérante. Et ça aussi, c'est un véritable enseignement de cette guerre. Un avion, ça coûte 50 millions de dollars. On les remplace pas, c'est plus un tas de bois ou de ferraille, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on en construisait des milliers. C'est 50 millions de dollars. Donc, dès qu'il y en a un qui tombe, c'est très cher. Il faut des mois pour en construire un, parce que c'est de la très haute technologie. Et donc, ça ne se remplace pas comme ça, bien entendu.
C'est tellement cher qu'on n'ose pas l'utiliser.
C'est tellement cher qu'on n'ose pas l'utiliser. Et puis, on découvre leur vulnérabilité, qui est c'était un peu l'arme ultime, l'aviation, vous voyez.
Mais je vais peut-être faire une provocation à vos yeux, mais l'armée russe a tellement montré son incompétence. Est-ce qu'il est nécessaire de muscler notre dispositif? Le général de Villiers dit que nous ne sommes pas prêts à la guerre de haute intensité, mais qui peut nous mener une guerre de haute intensité?
Alors, qui peut nous mener? D'abord, moi, je vous dis que la Russie n'a pas perdu aujourd'hui, donc il faut quand même se méfier. Il ne s'agit pas de mener une guerre de... Si vous me dites la France est entourée d'alliés, on ne fera pas la guerre à l'Allemagne demain matin. Donc là, je pense que l'environnement, autant Union européenne, est une bulle à nous que l'on va garder. Mais vous ne savez pas de quoi demain est fait. La Russie, quelle sera-t-elle dans 20 ans? Vous le savez? Est-ce que la Russie va perdre définitivement la guerre? Vous avez la Chine qui est plus loin, mais vous avez un certain nombre d'adversaires potentiels qu'il ne faut pas négliger. Et vous avez toujours le choix à faire entre le corps blindé mécanisé qui coûte très cher et que vous n'employez presque jamais, mais qui est une assurance vie. C'est une assurance vie chère. Et puis garder, comme on l'a fait depuis un certain nombre d'années, un petit corps agile, projetable, très très loin, mais dont on voit les limites dès que ça se gâte. Hein. Il nous reste 200 chars, 200 chars Leclerc dans l'armée française. Moi, quand je suis entré dans l'armée, il devait y en avoir 1000 ou 1500. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans le même registre. On n'est pas capable aujourd'hui de tenir un combat de type Ukraine dans la durée. C'est impossible.
Alors, cette guerre, est-ce que, selon vous, elle est appelée à durer?
Je pense que cette guerre est appelée... Ben, je la vois durer. Je veux dire, on n'est pas devin. Si demain, vous avez un coup d'éclat au Kremlin, bon... Mais on n'en sait rien. Alors là, il ne faut pas faire non plus... je ne suis pas spécialiste de la sociologie du Kremlin. Il faut jamais, stratégiquement, rester passif et attendre benoîtement que les choses changent. Donc, ça peut arriver, mais c'est improbable. Et puis, on n'en sait rien. Ce que je vois, moi, c'est une armée ukrainienne. Je ne pense que la Russie ne gagnera pas la guerre, en ce sens qu'elle ne conquérera pas l'Ukraine telle qu'elle était ses buts de guerre, en tous les
ni
cas.
Même le Donbass en entier.
Le Donbass en entier. Oui. Je pense qu'ils n'iront pas. Je pense que le but de Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est de durer et de s'asseoir sur ses gains, hein, et de renforcer son dispositif défensif pour durer et puis en faire un conflit gelé. Dans ce sens, j'ai bien peur que si les Ukrainiens n'aient pas les moyens de percer ce front, n'aient pas les moyens du corps blindé mécanisé qui leur permet la rupture, mais une rupture, c'est quelque chose, ça se prépare pendant des mois, il faut une supériorité de 3, 5, voire plus contre 1 pour réussir à la mener, c'est percer un front, c'est très compliqué, et si Vladimir Poutine pratique la mobilisation encore partiel ou général, il va figer le front de facto. Ça sera très difficile. Je veux dire, même une masse obèse, pas très efficace, ça sera très très difficile de l'expulser de là où elle est. Donc moi, je pense que c'est son but. Si la guerre s'arrête ce soir, Vladimir Poutine a gagné. Il a 15 ou 16% du territoire ukrainien. Et c'est lui le vainqueur. C'est ça qu'il faut voir. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas sortir perdant de cette affaire pour son pouvoir, pour, et vis-à-vis de sa population. Donc, en fait, je pense que les gains qu'il a actuellement lui suffisent, et je pense qu'il va tout faire pour conserver ses gains le plus longtemps possible.
Est-ce qu'on ne peut pas opposer la masse russe en termes de nombre d'hommes? Bien sûr, la démographie joue en faveur de l'Ukraine, et comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas co-belligérants, nous n'avons pas envoyé de soldats pour bouger ce ratio démographique, mais en même temps, en termes de matériel, de compétences, d'équipement, c'est avantage ukrainien.
Ah ben,
puisque le PIB des États-Unis et de l'Europe est sans commune mesure à celui de la Russie.
Oui, et puis le poids de l'OTAN, globalement, ça doit être 50% de la richesse mondiale. Là, il n'y a aucun doute. Mais on n'a pas envoyé de chars. Il y a eu le débat sur la mise CRC. C'est pas un char, c'est un engin blindé. Moi, j'ai commandé 10 ans. J'ai été 10 ans dans ce genre d'unité. C'est un engin de reconnaissance.
Pour vous, ce qui serait le game changer, c'est qu'on envoie des vrais chars.
Ah ben, il faut qu'on envoie des vrais chars. Ouais. Et puis, à un moment donné, si on envoie des vrais chars, il faut donner toute la panoplie, j'allais dire, qui permet de mener un combat de très haute intensité le combat qui permet la rupture du front adverse. Donc, ça veut dire, on commence à envoyer du Bradley, du Marder. Donc, ça, c'est du véhicule de combat d'infanterie lourd. L'infanterie mécanisée monte là-dedans, s'approche au plus près du combat, débarque au dernier moment, mais il est lourdement armé, il est lourdement blindé, il est chenillé, donc il passe partout. C'est ce qu'il faut en infanterie. En revanche, en char, on n'a toujours pas fait franchi le cap qui est de livraison, soit même de char Leclerc. On accuse toujours l'Allemagne. Mais ils ne livrent pas des Léopards 2. Nous, on livre du Leclerc. Les Anglais, qui sont pourtant les meilleurs alliés, paraît-il, livrent-ils du Challenger? Et les Américains ont-ils livré du char Abrams? Absolument pas. Donc, je veux dire, c'est le plafond de verre.
Qu'est-ce qui les retient? Parce que là, on comprend l'argument de dire on ne donne pas aux Ukrainiens de quoi taper en Russie, parce que ça serait une amplification. Mais ça, ces chars, par définition, ne peuvent servir que de reconquérir les positions perdues depuis le 24 février.
Voilà. Alors, on y va par étape. Vous avez les HIMARS, le 24 février, il était impossible de les livrer. Et puis ils sont venus. Et puis ensuite, le Patriot, vous n'y pensez pas. On livrait à l'époque du Stinger, temps de la guerre d'Afghanistan. Donc vous n'y pensez pas. Et puis ils sont arrivés. Donc je pense que tôt ou tard, là, la réflexion est en marche. Zelensky est forcément arrivé à Washington en demandant des chars. Donc je pense que tôt ou tard, ils les ont. Je pense que le vrai souci aujourd'hui, c'est que ces chars, on ne les a pas. C'est-à-dire que nos armées occidentales, qui sont des petits corps blindés, hésitent fondamentalement à se défaire d'un matériel rare, un matériel cher, et un matériel dont on n'a pas trop envie qu'il soit saisi par l'ennemi à un moment donné. Parce que c'est de la très haute technologie, on n'a pas envie de voir un char Leclerc.
Le vrai obstacle, c'est la crainte que nos secrets...
C'est un des obstacles. Moi, je pense que, pour la France, en tous les cas, je pense que le vrai obstacle, c'est le nombre de chars dont on dispose. Vous voyez, quand on veut donner de l'artillerie, il faut livrer 25% de notre propre artillerie en dotation dans les corps. C'est pas tenable à terme, ça. Donc, on n'a que 200 chars. On va livrer nos chars Leclerc. Donc, si demain, on a un souci majeur, alors, évidemment, on ne voit pas immédiatement lequel. Il faut des années pour faire... si vous livrez un régiment de chars Leclerc, une cinquantaine de chars, il va falloir des années pour compléter ce manque. Donc, on est parti pour des années, 10 ans, 15 ans, avant de pouvoir se repayer le même nombre de chars.
Si je résume bien votre analyse, c'est que la Russie ne peut que perdre la guerre, mais à condition qu'il y ait des livraisons importantes d'armes des pays de l'OTAN à l'Ukraine, et rapidement.
Mais moi, je ne sais pas si elle peut... Je dis qu'elle ne peut pas gagner la guerre, et je ne sais pas si elle la perdra complètement. Et c'est ça
même
la plus grosse crainte.
Sur le long terme, il n'y a pas un facteur d'épuisement des ressources?
Alors, il y aura un facteur d'épuisement des ressources, mais vous savez très bien qu'en matière économique, ça met très longtemps à produire son effet. Et puis, quand on parie sur l'effondrement d'un pays parce qu'on pratique l'embargo, regardez bien ce qui se passe en Iran et regardez bien ce qui se passe en Corée du Nord. Ça ne marche pas très bien.
Ou en Syrie,
on va paupériser la Russie, on va lui faire perdre 50 années de progrès, etc. Ils vont rester, une puissance mineure pour des années, mais leur capacité, à rester scotché au terrain et me paraît très importante. Pour le moment, moi, je ne vois pas l'issue du conflit qui fait que l'un ou l'autre peuvent gagner. D'ailleurs, les Ukrainiens sont vraisemblablement épuisés également. La chose que je crains le plus, c'est véritablement un conflit figé, un conflit gelé, un peu comme ça s'est passé à partir de 2014 jusqu'en 2022.
Raymond Aron disait « guerre improbable, paix impossible », et donc vous, c'est « paix impossible et guerre probable longtemps. Quoi.
Moi, je vois ça pour le moment, sauf s'il y a une surprise stratégique qu'on ne voit pas venir et qui
changement de pouvoir à Moscou.
Changement de pouvoir à Moscou, ce genre de choses-là. Et puis, encore, changement de pouvoir. Faut-il admettre que ce soit un pouvoir favorable à des négociations?
Oui.
Parce que si c'est... Si
Prigogine prend le pouvoir...
On défait Vladimir Poutine pour que ce soit Patrouchev qui monte en ligne, je ne suis pas certain qu'on ait gagné beaucoup au change. Voilà. Donc, pour le moment, je vois une guerre longue, avantage aux Ukrainiens. Je ne vois pas les Russes capables de reprendre l'offensive. Je ne vois pas les Ukrainiens capables de libérer leur territoire à court terme et avec les moyens dont ils disposent actuellement.
Tout ceci n'est pas très optimiste, mais c'est au moins lucide. Merci Nicolas Richoux de nous avoir éclairés.